CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30.
À Caussade, jeudi 28 janvier à 20h30, la salle des récollets, la salle de conférence des récollets, le traité de commerce transatlantique, le fameux TAFTA, l'accord de libre-échange Europe-USA, c'est quoi ? Avec comme conférencier Patrick Mignard, professeur d'économie, on va dire deux mots quand même, professeur d'économie, c'est un peu court, on va dire deux mots tout ça avec Véronique Fresquet, Jean-Pierre Mignot de l'Université Populaire de Caussade qui organise cet événement. Bonjour, comment allez-vous en ce début d'année ?
Bonjour. Ça va bien.
Bonjour, tout va bien.
Alors, vous continuez à dérouler le calendrier d'Université Populaire qui est sorti à la rentrée universitaire, à l'automne. Vous aviez programmé des tas de choses très différentes les unes des autres, puisque la prochaine fois qu'on va avoir une conférence et qu'on va apprendre des choses, c'est pourquoi on a mal, en gros, c'est l'arthrose. Hein. Ce coup-ci, c'est pourquoi on risque d'avoir mal, c'est le traité de commerce libre-échange, mais c'est dans un autre domaine. Le traité de commerce transatlantique, comment peut-on en parler, vu que les transactions sont secrètes.
Et c'est bien tout le problème. À savoir que effectivement règne autour des discussions, des négociations qui sont en cours entre les États-Unis et la Commission européenne, l'Union européenne, il y a effectivement une espèce de chape de ciment qui interdit d'avoir des opinions très précises sur l'état de ces négociations. Cela dit, là comme ailleurs, on sait très bien qu'il peut exister un certain nombre de fuites, à la fois sur le niveau des négociations et sur leur contenu. Et effectivement, on apprend un certain nombre de choses dont on peut parler un peu plus tard si vous voulez, concernant le développement de ces négociations sur TAFTA. TAFTA, voulant dire l'acronyme anglais, signifiant Transatlantique Free Trade Agreement. Ou encore TTIP, c'est-à-dire qu'on trouve les deux consonances en anglais, Transatlantic Trade and Investment Partnership, c'est la même chose.
Je suis content que ce soit vous qui l'ayez dit.
Non, sans difficulté.
Bon. C'est quoi ? C'est un peu comme l'ALENA en son temps, sauf que là, il y avait une frontière dont certains veulent faire un mur.
La comparaison avec le traité de l'ALENA est tout à fait juste.
Mais rappelons que l'ALENA, c'est un accord entre les États-Unis et l'Amérique.
Tripartite, trois pays, et Mexique, Canada, États-Unis, voilà. de même niveau et avec le même type de négociation, mais qui a été beaucoup plus facile parce que la culture nord-américaine a imprégné toute cette partie de la sphère des États-Unis, notamment avec le Canada et également avec le Mexique. C'est-à-dire que le niveau des normes, par exemple, était identique. La reconnaissance des droits des salariés était à peu près identique, ou les droits des salariés étaient reconnus de façon à peu près identique. Donc ça n'a pas tellement posé de problème. La difficulté ou la différence, c'est que lorsqu'on essaie d'appliquer ces mêmes raison d'État aux relations entre les USA et l'Union européenne, les choses sont beaucoup plus compliquées. D'où les difficultés dans les négociations, mais également les risques encourus si jamais ces négociations aboutissaient. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on se retrouverait avec des niveaux de dépendance normatifs, sanitaires, alimentaires, au niveau des conditions de travail. Je rappelle que les États-Unis ne reconnaissent pas les droits des salariés déclarés à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui n'est pas, malgré tout, un organisme particulièrement révolutionnaire, on ne peut pas dire ça. Donc, ne pas reconnaître ces normes-là signifie que si on s'accordait sur ce terrain-là avec les États-Unis, ben, il y aurait comme conséquence immédiate une régression monumentale des droits des salariés et donc de la capacité des salariés à maintenir un droit du travail qui, quoi qu'on en dise, les protège d'une certaine façon.
Oui, mais ça, c'est une vision des choses. Vous savez bien que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que le droit du travail est un frein à la, attention, je vais dire un gros mot, à la compétitivité.
Oui, mais si vous voulez, je pense que là, il faut pas se tromper sur la nature du discours. Qui nous dit ça, ce sont les libéraux. Y compris des libéraux prétendument de gauche. La théorie de l'offre que défend notre président est une théorie d'abord et avant tout exclusivement libérale, non reconnue par les autres. Je rappelle par exemple qu'en économie, John Maynard Keynes, qui n'est pas non plus un grand gauchiste et un grand révolutionnaire, a radicalement remis en cause la théorie de l'offre, et qu'effectivement, celle-ci est porteuse d'un discours dans lequel la place du travail est renvoyée à une variable d'ajustement.
Alors, quand on a des économistes, effectivement, qui font des propositions qui sont libéraux, qui disent ben c'est le monde entier est un grand marché, et on peut pas se permettre d'avoir des coûts différents, surtout en matière de main d'œuvre, parce que les matières premières c'est réglé, hein, c'est déjà approprié, et quand on a des pays qui veulent pas les lâcher, ben on leur fait la guerre et c'est réglé.
Mais
quand même, ce sont des États qui font des négociations, c'est pas seulement des libéraux ou des chefs d'entreprise, c'est pas l'OMC.
Je crois qu'il faut pas être naïf dans ce domaine, et justement. On revient à TAFTA là-dessus. Que prévoit TAFTA dans les négociations ? Ben justement, il y a un volet de ces négociations qui porte sur les droits régaliens, et en particulier la justice. La justice anglo-saxonne, et notamment au niveau de l'ELENA, fait en sorte que ce soit une justice privée qui tranche les oppositions qui peuvent exister entre les États et les grandes entreprises. Un exemple.
Ne me dites pas que c'est comme l'arbitrage qui a donné raison à Bernard Tapie.
Non, en ce sens que c'est un petit peu plus grave, puisque je vous rappelle que dans ce domaine, la ministre de l'époque, actuellement directrice du FMI, est mise à l'examen pour corruption de fonctionnaires. Donc là, c'est un autre problème, oui. C'est un autre volet. TAFTA, c'est pas ça.
Le féminisme, c'est que la garde meurt mais ne se rend pas. Hein,
le problème de TAFTA, c'est qu'on va privatiser les rapports. De quelle façon ? Mais en créant une instance au niveau de l'ONU qui serait composée de juges nommés par les entreprises et qui devraient porter un jugement sur tel conflit ou tel autre. L'exemple dont je voulais vous parler, entre le Canada et les États-Unis, sur une rivière quelconque, a été construit un pont. Ce pont a été construit par une entreprise privée, et donc privatisé, un petit peu comme Eiffage l'a fait à Millau. Eh bien, l'État canadien souhaite construire un autre pont, parce que le développement du trafic est tel qu'un second pont est nécessaire. Eh bien, au nom du droit de la concurrence, de la mauvaise concurrence, l'entreprise en question concernée, qui était propriétaire du pont, a attaqué l'État canadien et s'est fait verser la somme de 2 milliards pour défaut de concurrence. Donc ça veut dire que on va trouver des gens qui vont être juges et en même temps partis. Parce qu'effectivement, c'est eux qui vont nommer ces juges-là, qui eux-mêmes sont imprégnés de l'esprit de concurrence. On voit donc qu'il y a deux poids, deux mesures, et que dans ces conditions, la privatisation, quoi qu'en disent les négociateurs, porte bien atteinte au droit régalien. La justice est un droit régalien qui appartient à l'État et uniquement à l'État. Là, c'est une remise en cause de l'État. C'est exactement ce que souhaitent les néolibéraux. Remettre en cause la capacité de l'État à dominer les entreprises privées. C'est bien l'évolution actuelle du néolibéralisme.
J'avais déjà défailli.
C'est le MAG. Tous les jours.
12h, 12h30.
On est toujours en compagnie de Jean-Pierre Mignot, Véronique Fresquet de l'Université populaire de Caussade. On parle de cette conférence qui aura lieu jeudi 28 janvier à 20h30 à la salle de conférence des Récollets de Caussade. L'entrée est libre. La conférence porte sur le TAFTA, le fameux traité de commerce transatlantique. Le conférencier, c'est Patrick Mignard, professeur d'économie. Deux mots sur Patrick Mignard.
Patrick Mignard est un professeur d'économie à l'université Paul Sabatier. Pour le situer un petit peu, il est dans la lignée de François Morin. Vous vous souvenez que François Morin avait fait une conférence sur les banques systémiques il y a quelque temps de cela. Et Patrick travaille avec lui, donc il est un petit peu spécialiste de ces questions. Et il est notamment l'auteur d'une série de livres, généralement de livres d'économie, mais de vulgarisation de l'économie. Notamment le dernier qu'il a sorti, c'est un traité d'économie à l'usage de ceux qui n'y comprennent rien, qu'on ne manquera pas de présenter le jour de la conférence.
Alors, vous nous disiez avant qu'on fasse une pause musicale, tous les risques, pas tous, mais les risques qu'il y a effectivement à voir libéraliser et même institutionnaliser ce libéralisme au point qu'il y aura un arbitrage qui dira, bon ben voilà, les actionnaires de telles banques, fonds de pension, etc., qui ont investi dans un truc, il prévoit un rendement. Et si, pour une raison ou pour une autre, un État risque de mettre à mal ce rendement, ben on pourra l'attaquer, quoi. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, je veux dire une bêtise, en Allemagne, par exemple, on institue un salaire minimum, il y aura moins de rendement que si on continue à les payer avec un lance-pierre et d'un seul coup, on pourrait dire, mais pourquoi vous avez fait ça?
Absolument, absolument.
Vous portez atteinte à nos intérêts.
Tout à fait. Si vous voulez, la logique de TAFTA, de l'accord en général, consiste à mettre l'ensemble des acteurs économiques des USA et de l'Union européenne sur un plan qui serait censé être un plan d'égalité. C'est-à-dire que tous auraient les mêmes armes sur le marché pour se livrer la guerre économique qui aurait tous les avantages possibles imaginables, baisse des prix, etc., etc., ce qui est radicalement faux, ça n'a jamais été constaté. Mais bon, c'est l'argument qui est avancé. Le seul problème dans ce cadre-là, c'est que, encore une fois, je répète, les acteurs vont être à la fois juge et partie. Je rappelle, par exemple, que la Suède, vous avez parlé de l'Allemagne, la Suède est en train d'intenter un procès à l'État allemand parce que celui-ci a empêché une entreprise suédoise d'arriver sur le marché dans des conditions qu'elle jugeait indispensables pour elle et pour pouvoir survivre. L'affaire est un peu compliquée, mais c'est autour de ça que ça tourne. Ça veut donc bien dire que l'État allemand va donc être soumis à un jugement qui va être émis, non pas par une instance reconnue par les Allemands eux-mêmes, mais par une instance qui vient d'ailleurs, qui est faite uniquement de juges appartenant aux entreprises privées, et qui donc effectivement vont se retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce cas-là, à la fois juge et partie. C'est donc, de ce point de vue-là, la fin d'une situation dans laquelle le droit régalien de l'État est bafoué, au bénéfice des entreprises privées. Et bien évidemment, les actionnaires des entreprises privées veulent y trouver, là-dedans, toutes les raisons d'accroître leurs dividendes. N'oublions pas, et Patrick Mignard ne manquera pas de le répéter, que les entreprises, l'objectif de l'entreprise, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est de réaliser des profits. Lorsqu'on se trouve dans le cadre des grandes entreprises internationales, on sait bien qu'elles n'hésitent pas devant les moyens à utiliser pour se faire.
Bon, mais dites-moi, on disait au début que cet accord de libre-échange Europe-USA qui est discuté depuis des mois maintenant, régulièrement, moi j'entends dire par des intervenants qui en parlent que justement ces accords sont secrets et que les choses qui sortent sont souvent pour dénoncer cet accord-là. Alors par exemple, on entend parler de la javelisation des volailles.
Des poulets, oui. Alors, pour abonner dans votre sens, on a appris un certain nombre de choses sur le traité lui-même, notamment par une fuite qui s'est produite aux États-Unis. C'est un député européen qui, par un biais ou par un autre, je suis incapable de vous dire lequel, mais qui a dégoté un rapport fabriqué par le Congrès américain, Concernant les avantages comparés de l'application du traité, c'est sans appel. Alors, bien évidemment, ce rapport était secret. Il a pu se le procurer par des moyens détournés. Il l'a eu. Alors, quelle est effectivement l'annonce faite? Alors, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que lorsque vous lisez le rapport en question, et lorsque vous lisez, par exemple, ce que disent les défenseurs du traité pour le justifier, je pense notamment à un journal dont le libéralisme n'est plus approuvé, Les Échos, ben on vous raconte que je crois que les bénéfices annoncés par Les Échos seraient de 120 milliards, que ça, ce qui représenterait la somme de 500 et quelques euros par européen, que le taux de croissance augmenterait du PIB de 0,5%. Mais ce qu'on oublie de vous dire par ailleurs, c'est que l'agriculture, dans ce cadre-là, devient une variable d'ajustement, que les importations de bœuf américain, de volaille américaine, feraient en sorte que les importations seraient de l'ordre de 5 milliards 500 millions de dollars des États-Unis vers l'Europe, alors que les exportations de l'Europe vers les États-Unis seraient seulement de 800 millions, calculées par les Américains eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un rapport de 1 à 7. Où est l'avantage pour l'Europe? Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est les normes. Ben, les normes, il faut les balayer. Il faut les balayer, et y compris les normes sanitaires.
Fermez les guillemets, disent-ils.
Exactement. Citation. Hein. Donc, ça signifie bien qu'il y a là un enjeu majeur, et je crois que les chiffres donnés pour les volailles, si jamais l'accord s'appliquait, je crois que là, le taux de progression... Je veux pas dire une bêtise, mais c'est l'ordre de grandeur. Le taux de progression des importations américaines de volailles augmenterait de 33 500%. Je sais pas si vous imaginez. Pour le bœuf, 685%.
En fait, ça veut dire des nuggets pour tous, à tout moment.
On boufferait des nuggets et des poissons sans yeux à n'en plus finir. Et bien évidemment, du bœuf aux hormones.
Oui, c'est-à-dire toutes les choses que, petit à petit, l'Union européenne s'est mise à accumuler. Alors, on a tendance à dire comme norme, mais enfin, quelquefois, c'est pour protéger, par exemple, les ressources halieutiques, c'est pour protéger la santé des gens.
Absolument.
Voilà, chaque fois qu'on a ce qu'on appelle un scandale, on découvre que le plastique n'est pas si neutre que ça dans les biberons. On découvre petit à petit que la science peut se mettre au service de la santé en essayant d'exclure des molécules de la fabrication des produits alimentaires. Là, on se dirait, comme certains candidats disent, le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois. On est capable de régresser à ce point-là?
La régression n'aura lieu que si l'accord est signé sur la base de ce que souhaitent les USA. Encore une fois, c'est le système anglo-saxon qui, de ce point de vue-là, devient normatif. C'est-à-dire que les normes américaines deviendraient les normes européennes. C'est-à-dire, on imagine mal que les Américains acceptent d'appliquer un certain nombre de normes. Je répète, les normes, par exemple, édictées par l'OIT, par l'Organisation Internationale du Travail. Si on impose aux États-Unis, toutes les entreprises, des conseils d'entreprise, des syndicats, etc., bien évidemment qu'ils vont hurler au communisme, au socialisme sauvage, à la barbarie, etc. Et ils n'accepteront jamais. Donc ça signifie que s'il y avait un accord avec TAFTA, sur TAFTA en tout cas, il faudrait que l'Europe accepte les normes de... Et là, c'est le marché qui édicte la loi. Il n'y a que le marché et les règles du marché. Donc ça veut dire effectivement une régression vers le bas. Mais vous savez, l'Union européenne ne se gêne pas pour organiser elle-même la régression vers le bas, notamment avec l'Europe des 28. Les lois sociales en Roumanie ou en Bulgarie et les lois sociales chez nous ne sont pas les mêmes. Or, ce qu'on nous demande, c'est effectivement d'intégrer dans les mêmes conditions des niveaux qui ne sont pas du tout comparables et identiques. Et là, il y a fondamentalement une erreur qui explique d'ailleurs que, par ailleurs, le rejet du modèle européen se fait sur la base de Le Pen. C'est Le Pen qui récupère les morceaux. Donc, il faudrait peut-être que nos libéraux s'interrogent sur leur stratégie. Et surtout, quand elle est aussi cachée qu'elle l'est avec TAFTA.
Mais est-ce que tout ça ne met pas en évidence l'absence d'Europe sociale comme d'Europe fiscale ?
Absolument. Absolument. Le problème, c'est que faire l'Europe fiscale... Une remarque. On n'est pas encore en mesure de faire en France la réforme fiscale qui s'impose. comment pouvez-vous penser une seconde qu'on est capable de le faire au niveau européen ? Donc, là, il y a un vrai problème. Je pense que de ce point de vue-là...
Ouais, mais Jérôme Cahuzac l'aurait fait.
Oui.
Ne riez pas.
Oui. Peut-être en Suisse, oui. Il aurait réussi. Mais bon, non, je crois que là, il y a un véritable problème. Et je crois que le message européen coince, ne passe pas, parce qu'effectivement, les gens s'aperçoivent que c'est la quadrature du cercle. Et on ne peut pas y rentrer comme ça. Alors qu'il y ait une Europe, regardez les accords de Schengen, y compris les grands partisans et tenants de l'Europe, commencent à les remettre en cause. Donc ça signifie bien que dans une négociation de ce type, notamment avec les USA qui sont en position, de force, ben il y a certainement des enjeux derrière qui peuvent être dramatiques pour nous. Je reprends le cas de l'agriculture et j'insiste sur le fait qu'avec TAFTA, elle deviendrait une variable d'ajustement. Tout ça parce que les Européens veulent pouvoir pénétrer le marché américain dans le domaine des services et industriels. Et que donc, effectivement, il faut faire des concessions. Ben, moi, je rappellerai la position du général de Gaulle en 1945. Hein. Il a créé l'INRA pour mettre la France à l'abri de tout problème de dépendance alimentaire. Or, ce que fait l'Europe, c'est qu'elle brade cette dépendance-là. Et ça, c'est un véritable problème. Au nom du marché, bien entendu.
Mais quand même, pourquoi régulièrement faut-il des traités ? On a créé l'OMC, on a des accords qui déterminent quelles sont les monnaies de référence, puis on change, la référence à la valeur or change, etc. Dans des cycles longs, comme ça, enfin en économie, dans des cycles longs, on se dit, il faut qu'on tire les leçons de comment ça s'est passé les 25 dernières années, et redéfinir des règles du jeu. Il faut bien redéfinir de temps à autre des règles du jeu en fonction de, je sais pas, on continue à dire des pays émergents, bon, le problème c'est les pays qui émergent pas, hein, parce qu'on les appelait, oui. On les appelait le tiers-monde, puis on les appelait les pays
en développement.
En voie de développement, etc. Oui. Chaque fois, c'est le verbiage qui change, en réalité c'est les matières premières. Comment, quoi ?
Oui, là, on revient à votre question initiale, c'est-à-dire, finalement, depuis les années 70, on nous rabat les oreilles sur la nécessité de revenir aux lois du marché et de laisser fonctionner le marché. Et on s'aperçoit que plus on va vers une organisation par le marché, ben plus les crises sont importantes. Alors, toute crise confondue, un chiffre qui est, à mon avis, édifiant, toute crise confondue, crise bancaire, crise jumelle, crise boursière, etc. Entre 1980 et 2012 ou 2013, je ne sais pas combien, à peu près à un an près, il y a eu 51 crises. Si on prend la période de 1945-1975, 30 ans, même chose, il y a eu 3 crises. C'est-à-dire qu'en libéralisant l'économie, les chiffres sont pas de moi, ils sont du Conseil d'analyse économique qui a livré un rapport là-dessus et qui a fait un état des lieux. Je renvoie les gens concernés qui sont intéressés par la question à un bouquin publié par le CAE et le CAE sur les crises financières qui est très clair là-dessus. Et les raisons pour lesquelles effectivement ça s'est produit, c'est que on a libéralisé le marché, ce qu'a expliqué François Morin à la dernière conférence, à savoir que la libéralisation et d'échanges et des taux de l'intérêt. Et donc la libéralisation du jeu des acteurs aboutit à des systèmes de spéculation qui sont purement financiers et qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Donc c'est un petit peu cette démarche-là qui vise à dire, oui, mais il y a un autre éléphant de mer qui va ressortir bientôt, c'est l'union des marchés des capitaux en Europe. C'est exactement la même chose. Les banques le réclament, le lobby des banques le réclame, mais pour une simple et bonne raison. C'est qu'en prétendant pouvoir financer et les PME et les grandes entreprises par l'unité de ces marchés financiers, ben en fait, on va créer des systèmes dans lesquels le mécanisme de spéculation va être un mécanisme dominant et dans lequel on intégrera toutes les valeurs financières au PME. Quel est le problème des filles dans la finance dans ce cas-là? C'est que les banques prêtent, mais plutôt que de laisser dans leur bilan les prêts qu'elles ont accordés, elles titrisent et elles envoient ça sur le marché financier. Alors la titrisation, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le seul problème, c'est que lorsque vous titrisez par des obligations des bilans d'entreprises qui sont pourries, c'est-à-dire les entreprises vont faire faillite, ben et ça, les banquiers sont très bien placés pour le savoir, ben vous mettez sur le marché des biens pourris qui, effectivement, vont provoquer à la première occasion voire la crise des subprimes, un déferlement sur le marché qui sera catastrophique. Ce qu'a montré François Borrell lors de la dernière conférence. Et là aussi, tout est lié. C'est-à-dire qu'il y a une organisation de nature systémique. On appelle ça une volonté systémique d'organiser l'ensemble des marchés selon une cohérence interne qui soumet tout à cette logique de marché. Et ça, c'est dramatique.
Avec Pierre Mignard, on pourra comprendre ce qu'est le traité de commerce transatlantique. Le jeudi 28 janvier à 20h30 à la salle des conférences Éric Collet, on pourra après lui poser des questions sur le TAFTA. Je suppose que Jean-Pierre Mignon prendra la parole aussi pour dire que l'Université populaire de Caussade permet de comprendre des mécanismes du monde dans lequel on vit et plus, puisque la conférence suivante sera sur des choses qui concernent chacun, comme l'arthrose. L'Université populaire de Caussade, vous pouvez aller sur le site UP Caussade, vous aurez tout le programme avec les ateliers qui sont organisés et régulièrement, Véronique Fresquet ou Madame la Présidente, Monique Desjean-Servière, vient nous parler de ce programme-là, puisque nous sommes partenaires pour l'occasion. Véronique, Jean-Pierre, je vous remercie.
Merci.
Merci.
Le mag du Kerserouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.